France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Pauline Delabroix-Allard. Merci pour votre livre. Ce qui m'a frappée à ma lecture, c'est l'omniprésence de vos réflexions sur l'écriture. Et évidemment, je pense à tous ces auteurs et autrices qui ont émis l'idée selon laquelle écrire, c'était un peu trahir.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La vie, la mort, la photographie, aujourd'hui dans votre book club, et comment elles plongent toutes trois au bain révélateur de l'écriture. Les images sont cousues dans la doublure intérieure du langage et ainsi avance le nouveau texte de Pauline Delabroix-Allard, sans en montrer aucune. On pourrait croire que tout commence avec l'autoportrait de deux amoureuses au petit cadavre, image absente et obsédante de deux femmes réunies autour de leur bébé mort, après ce que l'acronyme Caillou appelle une IMG, interruption médicale de grossesse. Image illisible, immontrable, où tout est à l'envers. On a accouché, oui, pourtant le corps est sans vie. On pourrait ne voir que ça, mais l'autrice élargit la focale et remonte le fil de son propre rapport à la photographie, moyen d'attester de son existence, incertaine ou invisible, sinon. Avoir un corps, avoir eu un corps entre le bras, les bras, pouvoir attester des deux avec ou sans image, c'est un des enjeux de ce texte réflexif et sensible au programme de votre book club. Bienvenue à toutes et à tous. On est ensemble pour une heure. Bonjour Pauline Delabroix-Allard.
Bonjour Marie.
L'immontrable est le titre de ce livre paru aux éditions Julliard. Soyez la bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. Ce sera le texte au cœur de la conversation dans un instant. Mais ici, tout commence toujours par un portrait de lectrice. Il se trouve que ce livre est constitué en chapitres. On parlera de sa construction tout à l'heure. Et à chaque fois, ce chapitre, il est inauguré par une citation. Est-ce que ça nous renseigne sur vous en tant que lectrice en général, ou est-ce que ça nous renseigne sur vous en tant que lectrice écrivant ce texte ?
Ça vous renseigne sur moi en tant que lectrice écrivant ce texte. J'étais extrêmement seule et les gens que j'ai convoqués autour de moi sont venus comme pas comme des béquilles savantes, mais vraiment comme des compagnonnages, dans le sens où je me suis appuyée sur elles et eux. Mmh. Je dis elles parce qu'il y a Annie Ernaux, il y a Suzanne Sontag, et puis eux, Georges Didier Berman,
Barthes,
bien sûr, évidemment. Et donc voilà, ils ont été mes compagnons de cette traversée qui a été l'écriture du livre.
Mais c'était des nouveaux venus ou des nouvelles venues ? Parce que où on peut trouver, de manière générale, Ernaux, Sontag, Didier Huberman et Barthes dans votre bibliothèque ?
On peut en trouver certains. On peut trouver Annie Ernaux, dont j'ai lu toute l'œuvre de manière méthodique et psychomaniaque il y a plus de 10 ans, d'un coup, voilà, dans l'ordre de ses parutions. Et puis d'autres dont j'avais l'intuition qui pouvaient m'aider parce que voilà, j'avais su d'une manière ou d'une autre. En fait, j'ai cherché des gens qui avaient écrit à la fois sur le deuil et à la fois sur l'image.
Mmh. Et on a oublié Jacques Roubaud avec quelque chose.
Ah, oui, tout à fait. Et ils ne sont pas si nombreux. Donc j'avais Barthes en tête, mais par exemple, Barthes, je l'avais toujours parcouru un peu comme ça. Et là, il a été un vrai ami pour moi.
Avec quel texte en particulier ?
Avec La Chambre claire.
Mmh. Pour Jacques Roubaud, c'est un texte sur sa compagne, Alix Cléo Roubaud, qui elle-même était photographe. Mm-hmm. Donc, Quelque chose noir, c'est une sorte de poème, en effet, de deuil, d'amour beaucoup, et de rapport à l'image. Si on rembobine le fil, il se trouve que dans ce livre-là, on en parlera tout à l'heure, vous parlez aussi de la mort de votre père, lequel soutient peu de temps avant votre naissance une thèse consacrée à Jules Verne et à l'imaginaire. Est-ce que c'est inutile de vous demander s'il y avait des livres dans l'endroit où vous avez grandi ?
C'était une maison. Je pense que ces fondations, ces murs étaient constitués de livres. Mmh. Enfin, en tout cas, dans un imaginaire un peu d'illustration de livres d'enfants, c'est ça que je vois. Mais très bizarrement, moi, enfant, j'avais grand plaisir à emprunter les livres de la bibliothèque municipale et à ne pas tellement, en fait, explorer la bibliothèque de mes parents. Donc, c'était le décor dans lequel j'ai grandi, c'est sûr, parce que ma mère aussi lit à longueur de temps. Et donc ils étaient deux, donc c'est vraiment beaucoup de livres.
Ouais.
Mais moi, je préférais mon secret, qui était ma fréquentation assidue de la bibliothèque.
Et vous vous souvenez quoi ? Ce que vous lisiez avec plaisir ?
Enfant ?
Ouais. Est-ce que ça a laissé des traces?
J'ai lu vraiment l'intégralité de la bibliothèque, c'est-à-dire que d'un coup, j'avais
municipal.
Ouais. Au début, bien sûr, j'ai lu les choses qui m'intéressaient, et puis toutes les autres choses, les documentaires. J'ai vraiment une passion pour cet endroit et pour ce que ça me et pour ce que ça apportait à l'enfant que j'étais, qui détestait être un enfant. J'ai détesté être un enfant. Et donc, en fait, les livres, pour moi, c'était... je me souviens que, petit enfant, vraiment, j'attendais d'apprendre à lire parce que j'avais l'intuition que ce serait mon secours et qu'enfin, je serais... alors, pas adulte, évidemment,
porte mais... Porte de sortie.
Oui, c'était ça. Et je me souviens de l'institutrice qui m'a appris à lire et, effectivement, du cadeau inestimable qu'elle m'a fait puisque, ensuite, j'étais autonome.
Et ça s'est avéré être une vraie porte de sortie de l'enfance, la lecture ?
J'ai supporté, parce que je voyais bien que j'étais encore un enfant. Mmh.
Ça dure un peu, ça.
Voilà, mmh. À mon grand désarroi. Mais en tout cas, je supportais beaucoup mieux dès que j'ai pu lire seule. Et alors là, c'était parti. J'avais une enfance très libre où je pouvais fréquenter librement, donc aller toute seule à la bibliothèque sans demander la permission. Forcément et tout ça. Donc du coup, c'est vraiment... je pense que j'ai lu toute la bibliothèque.
Et une fois que vous êtes véritablement devenue adulte, Pauline Delabroix-Allard, est-ce que vous êtes devenue une autre lectrice ? Est-ce que vous êtes entrée dans un autre monde de littérature ? Où il y a une vraie continuité ?
Après, j'ai lu des livres qui m'emmenait à l'aventure. Donc, par exemple, j'ai repensé avec beaucoup de tendresse parce que je l'ai entendu dans votre émission. J'ai lu Arundhati Roy assez jeune et du coup, à 17 ans, j'ai demandé à mon amoureux à ce qu'on aille passer un mois au Tamil Nadu en Inde. Mais c'était à cause d'elle, grâce à elle, en raison d'elle. J'ai su que j'allais avoir des enfants quand j'ai lu Barbara Kingsolver dans L'arbre aux haricots. Il y a eu des livres comme ça où je me suis dit qui ont été performatifs dans ma vie en fait, qui m'ont pris par la main et qui m'ont emmené à l'aventure.
Et c'est encore le cas ? Est-ce que c'est encore ce que vous cherchez dans la lecture ? Quelque chose qui vous déplace, qui vous emmène de manière concrète ou imaginaire à l'aventure ?
Oui. Alors, j'ai fait une espèce de périple un peu bizarre sur l'île d'Elbe pour aller voir la tombe d'Hervé Guibert, par exemple, récemment. Enfin, récemment, il y a quelques années. J'aime bien quand la lecture me permet ensuite de me fait quelque chose dans mon corps au point de le déplacer, de me déplacer.
Je ne sais pas si vous la citez dans l'immontrable, mais il y a du Duras, il y a des choses de Duras, en tout cas, qui traînent dans ce texte-là, dans le rapport à la maternité, dans le rapport à la mort, peut-être même dans le rapport aux images. Est-ce que vous avez été une lectrice ou êtes encore une lectrice de Marguerite Duras ?
Oui, c'est une de mes figures. Alors j'entretiens un rapport très étrange, mais comme beaucoup d'autres, on a été un petit conseil de Durassien, Durassienne. On a été appelés 5 auteurs autrices par la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne à venir dans les collections de la bibliothèque et à produire ensuite un texte sur Duras. Et du coup, j'ai rencontré à cette occasion Jeanne Sautière, Thierry Magnier. On était 4-5.
Et vous avez tenu colloque sur Marguerite Duras.
Oui, on a chacun produit un texte et puis il a été et c'est édité dans une petite collection très jolie et en fait on a tous dit la même chose, c'est-à-dire que on l'adore et elle nous énerve à la fois et il y a des textes de Duras que j'aime énormément et puis d'autres que j'ai même pas lus tellement ils m'ont énervé, ils m'ont
avant
agacée.
De les lire
enfin en cours de lecture je les ai laissés tomber
alors qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous agace chez Duras?
Alors j'adore les petits chevaux, j'adore L'Amant évidemment, enfin c'est un texte vraiment majeur pour moi. J'aime bien des choses un peu bizarres de théâtre, mais par exemple le camion, ça j'ai jamais pu terminer, même si c'est très court. Enfin, il y a des choses comme ça que j'aime pas tellement d'elle. J'aime beaucoup ses films, Les Mains négatives par exemple, que j'ai beaucoup regardé parce que ça parle de la trace justement. Donc,
et de l'empreinte négative et du négatif photographique dont il est question.
Exactement.
Dans votre texte. Est-ce que vous avez lu pendant l'écriture de L'Immontrable autre chose que ce que vous placez en exergue des chapitres, et d'ailleurs peut-être ceux-là vous ne les avez pas lus pendant l'écriture, je ne sais pas.
Non, en fait, j'ai perdu donc à la fois mon père et mon bébé, et c'était mon premier rapport avec la mort, donc je suis assez chanceuse, c'est intervenu tard dans ma vie, et ça, j'ai constaté que ça m'a... j'ai plus lu, j'ai arrêté de lire. j'ai arrêté de lire, enfin j'ai arrêté de faire tout un certain nombre de choses, et notamment de lire. Donc c'est vrai que j'ai rien lu, en fait, en réalité, quand j'écrivais ce texte. À part, donc, si je me suis entourée, mais au sens...
De ce dont vous aviez besoin, voilà.
Oui, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, mais au sens un peu littéral, c'est-à-dire que vraiment, sur ma table de travail, il formait une espèce de cercle. Je l'ai consulté, je piochais à l'intérieur, mais c'était pas une lecture suivie ou très intense.
Et aujourd'hui, vous avez quoi comme rapport à la lecture ?
Mais c'est revenu. Donc ça, déjà, quelle joie, je pensais pas, parce que quand on est...
Ça relie la vie et lire, déjà. Ça oui. raconte quelque chose pour vous, en tout cas.
Ouais. Mmh. Et je relis. Voilà, je revis, je sais pas.
Et vous avez quoi comme vie de lectrice ?
Bah, à nouveau, j'ai plaisir à lire ce que je lisais avant les deuils, c'est-à-dire beaucoup les autrices femmes et beaucoup les autrices femmes d'aujourd'hui. Voilà, les livres qui sortent autour de nous, c'est vrai que ça me... Alors, je lis quand même parfois d'autres choses, mais globalement, c'est quand même ça qui m'intéresse le plus.
Est-ce qu'il y a, puisqu'on va parler de photographie, au tout début, quand on commençait à faire ce questionnaire lecture dans le book club, on posait une question, puis après j'ai arrêté d'avoir des questions qui reviennent, mais et qui disait, est-ce qu'il existe une photo de vous en train de lire, enfant ?
Alors, il existe très peu de photos de moi, enfant.
Oui, on est d'accord.
Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui me pose problème ou qui me met en difficulté. Mais j'ai une photo de moi, donc j'en ai pas beaucoup, mais j'ai une photo de moi, enfant, qui ne lit pas, mais où je vois, l'enfant que je vous décrivais, qui n'aime pas être un enfant. Donc c'est un enfant qui veut s'échapper du cadre, qui regarde ailleurs, qui est déjà dans l'obsession. Enfin, en fait, je vois l'enfant, je vois l'adulte que je vais devenir dans cette photo, l'adulte qui a besoin de ce rapport à l'image, plutôt, en fait.
Mais qui est loin des livres.
Ben, quelque part...
dans cette photo d'enfant.
Ah, oui, il n'y a aucun livre. Mais quand même, pour moi, ça a un lien dans le sens où mon rapport à l'image, il est très lié aussi quand même à mon rapport à l'écriture. Pour moi, c'est la même chose, finalement.
On va évidemment parler de tout ça juste après cette chanson. Interprété en duo par Lassa et Vincent Delerme. Dans ce livre, vous écrivez, Pauline Delabroix-Allard, combien tout continue de manière scandaleusement vivante après la mort d'un enfant, le soleil, la rue, celles et ceux qui jouent. Et dans cette chanson, on ignore ce qui est arrivé aux deux personnes. C'est tout à fait imperceptible à l'œil nu. Ça se mesure à peine sur l'échelle de Richter, c'est le titre de la chanson, cette échelle qui enregistre les tremblements de terre, pourtant.
Pas le square. Ni les pavés dans la cour, pas le soir, les ruelles alentour, pas la chambre, ni les rideaux.
Sur l'échelle de Richter.
Le Book Club, Marie Richeux.
Berceau, bouquet d'œillets et glace à la fleur d'immortel aujourd'hui dans votre book club. Pas exactement un tombeau, donc. Ou comment l'image silencieuse, immontrable, mais prise quand même, de deux femmes autour du cadavre de leur bébé fait avancer le texte et la pensée. Les bébés sont invisibles avant d'être là. Ou plutôt, ils sont là et ils sont invisibles. Parlant de ce fils à venir, Jacob, vous écrivez même, Pauline de Labroix-Allard, qu'il était déjà partout. Déjà là, déjà magnifique, avant que d'avoir un prénom, nimbé du désir puissant qui entourait son attente, il laissait déjà trace. Dans un livre construit comme au noir complet d'un laboratoire de développement, l'image est floue, puis elle est surexposée, puis négative, puis latente, puis fixée, brillante, loin de l'oubli. Vous interrogez tout à la fois le désir intime de preuve et l'impossibilité d'une société tout entière à penser, regarder les enfants morts. L'immontrable apparu aux éditions Julliard, et on en parle avec vous, Pauline de Labroix-Allard. Vous écrivez au départ, après une entrée en matière qui interroge peut-être la punition, mais on y viendra ultérieurement, vous écrivez votre désir d'écrire le désir, d'écrire l'espace du désir, d'écrire tout ce qui est, précède, va avec l'attente de cet enfant. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, où il sera tant question de mort ensuite, est aussi un livre de ça ? Un livre de désir ?
Ah oui, disons-le, ça me fait tellement plaisir parce que c'est absolument ça que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que ce qui est très violent dans le deuil périnatal, comme il est convenu d'appeler ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé, c'est que on pense qu'il n'y a strictement rien à dire, puisque la plupart des gens n'ont pas connu cet enfant, n'ont pas été pris dans l'histoire de cet enfant, l'enfant n'est pas là. Enfin voilà, il y a rien. Et en fait, en commençant à vouloir déplier la photographie dont je parle, je me suis rendu compte que bien sûr que si, en fait, il y avait beaucoup de choses à dire. En plus, c'est un enfant, s'agissant de celui du livre, de femmes lesbiennes, donc qui ont désiré, je veux dire, de manière...
quand même dû prouver leur désir.
Grandiose, bien sûr, pour avoir un enfant, puisque comme on sait, c'est difficile, c'est un parcours. Donc, y avait mon désir propre et personnel, le désir d'un couple, le désir aussi de mes enfants vivants qui attendaient quelqu'un dans leur fratrie. Voilà, c'était... Et en fait, je trouve que raconter des histoires, c'est déjà créer. Donc, le désir, c'est déjà de la création, en fait, finalement, pour moi. Et donc, c'est déjà une existence. Donc, Jacob était déjà là dans le langage, par exemple.
Oui. Oui, et d'ailleurs, on pense en vous lisant très fort à ce qu'un enfant a à voir avec le désir de ce qu'il imagine, en effet, et qu'il prévoit et qu'il attend. Et donc, il y a tout un temps dans lequel s'engouffre votre écriture, Pauline de Labroix-Allard, où il est question d'amour, il est question aussi de votre propre corps. Votre corps qui apparaît beaucoup comme avec des pulsations, comme vous parlez plus tard de dénis. Il y a des figures animales comme ça qui vous traversent. Et vous utilisez ce mot-là, peut-être qu'il est éculé, mais vous dites « Oui, j'avais un désir animal pour ce troisième enfant.
» Oui, un désir qui m'a traversé pour celui-ci, que je n'avais pas eu pour mes autres enfants. Mais mes autres enfants qui m'ont rendu maman mammifère, qui m'ont rendu cette mère complètement animale que je suis aujourd'hui et que je pense pour la vie maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il était... Et je voulais aussi raconter ce désir, puisque je voulais raconter cette photo. Et que cette photo, moi, ce qui me bouleverse dans la photo, qui est la photo de l'immontrable, qui est l'autoportrait des amoureuses, c'est la preuve irréfutable de ce désir. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup d'adultes, je pense, à se demander, et c'est une question très profonde, si on est des enfants de l'amour, si nos parents nous ont désirés, quelqu'un a voulu qu'on vienne au monde, si on a été attendu. Et il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas de réponse à ça, en fait, qui n'en auront jamais.
Parce qu'elle est compliquée, cette question.
Voilà, c'est une question très compliquée. Et cet enfant qui n'a pas vécu, lui, il possède cette preuve, cette photographie, c'est cette preuve-là. Donc c'est assez troublant pour moi.
Et au moment de l'écriture, consacrer du temps, des pages, des mots, des phrases et aussi de la recherche littéraire, Pauline Delabroix-Allard a creusé ce désir, à se souvenir aussi de ce désir. Est-ce que c'était quelque chose qui était paradoxalement vivant en entamant l'écriture d'une histoire qui, on va le voir, a tant à voir ensuite avec la mort ?
Oui.
Parce que ça commence fort par la vie.
Oui.
Puis ça termine fort par la vie.
Oui, oui. En fait, et oui, je voulais pas que, bien sûr, la perte et la catastrophe gagnent. Je voulais regagner à la fin du texte. C'était très important pour moi de montrer que revient la vie, comme on le disait tout à l'heure, que oui, un jour on peut se mettre à lire à nouveau, à avoir des plaisirs très charnels à nouveau, déguster une glace, se promener dans un rayon de soleil, que ça revient et que ce n'est pas une récompense après la souffrance. Qu'en fait, ça vient avec. C'est pas au-delà. C'est pas, comment dire, ça ne vient pas après. Et en fait, moi, c'est ça que j'avais envie aussi de raconter, c'est que c'est intrinsèquement lié, c'est noué en fait, les deux sont noués.
Et d'ailleurs, finalement, dans ce livre, ils cohabitent forcément ces deux aspects. On va écouter un premier extrait de votre livre, L'Immontrable, et justement, on revient à l'enfance. Je ne peux rien raconter du tout. Quand mes copains viennent chez moi, je n'ai pas de photographie à leur montrer. Pour eux, ce n'est pas grave. Venir chez moi, c'est déjà venir au spectacle. Les portes s'ouvrent, battent, se ferment, des personnages inattendus apparaissent. Il n'y a d'ailleurs jamais le même nombre de personnages dans cette maison, ni les mêmes d'une fois sur l'autre. Il y a des cris, des soupirs, les adultes sont drôles. Ma liberté et mes responsabilités immenses. Je fais ce que je veux, c'est mon territoire. Cette maison est mon domaine, mon royaume. Il semblerait qu'il n'y ait rien d'interdit. Et pour ça, c'est très différent de chez eux. J'échangerais volontiers ma vie familiale volcanique pour des parents affables, une chambrette proprette et des albums photos bien rangés que je pourrais ouvrir et, pointant du doigt un bébé joufflu, dire amusé « Alors là, tu vois, c'est moi. Là, c'est moi. » Cette phrase, je ne peux pas la prononcer. Je n'ai pas d'image de moi. Je n'ai pas de représentation de qui j'étais à la naissance, au moment de me mettre à marcher, à mon entrée à l'école. Je n'ai aucune idée de comment mes parents m'habillaient, des gens qui m'entouraient, des décors dans lesquels j'évoluais. Je n'ai pas passé des heures à jouer au jeu des ressemblances. Mes parents n'ont pas scruté des photos de moi en disant « Ah bah tiens, là c'est vraiment le profil de machin, les yeux de machine. » Je ne ressemble à personne. Je n'apparais nulle part, inconnu au bataillon. Les autres ont les images, j'ai les mots. Alors j'invente mon propre roman familial. On ne veut pas me guider en me montrant des illustrations, je me console. Les livres avec images, de toute façon, c'est pour les bébés. Je n'ai pas besoin de ça, pour moi aussi, avoir le pouvoir fou d'inventer des histoires. Un extrait de L'Immontrable, Pauline Delabroix-Allard. Vous le dites, il y a cette image obsédante qui est partout, qui est en même temps nulle part, qui est la photographie de deux amoureuses avec le cadavre de votre bébé. Mais vous décidez de remonter le fil de votre propre rapport à la photographie. Est-ce que cette question, elle s'est invitée immédiatement au moment où vous êtes mise en route dans l'écriture ?
Oui, alors c'était l'image, c'est vraiment... Enfin, la photo, c'est le point de départ et le point de rupture du texte. C'est l'appel de Caroline Brouet, qui est la directrice de la collection Caméra Obscura, qui m'a comme allumé un interrupteur sous le crâne quand elle m'a parlé d'écrire un texte sur une photo. J'ai tout de suite pensé que ce serait cette photo-là, et j'ai tout de suite pensé qu'il faudrait que je l'inscrive dans
une histoire de la photographie.
Bon, voilà, mais
pour vous,
ma photographie. Ouais. Et Et en fait, du coup, j'ai un peu réfléchi et je me suis rendu compte que, j'essaye de le dire un peu dans le livre, que j'ai ce besoin d'avoir des preuves, des traces et du coup des photos parce que je vois pas très bien et que on vit dans un monde qui va trop vite pour moi. Et
je trouve vous voyez pas très bien physiologiquement.
Physiologiquement. Ouais, je porte des. Alors pour le coup, sur les rares photos d'enfants de moi que j'ai, je porte déjà des lunettes bébé, ce qui est rare. Et puis après petit enfant. Enfin, je veux dire, j'ai toujours.
Tout premier chapitre porté, flou. Le titre.
Oui, c'est ça. Je vis dans un monde flou si je ne porte pas mes lunettes. Et surtout, je pense et c'était déjà le cas dans les années 80, 90 quand j'ai grandi. Mais je pense que ça a pris une ampleur incroyable. Je trouve qu'on est dans une période un peu de crise du regard. C'est-à-dire qu'on on voit des choses toute la journée, on voit des images toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, mais on ne regarde pas. Et donc c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, ça. Donc moi je prends aussi beaucoup de photos pour pouvoir regarder ensuite. En fait c'est comment dire, ça va trop vite, mes yeux sont pas adaptés, mon cerveau suit pas. Donc j'ai besoin aussi de garder pour pouvoir après analyser plus tard au calme. Il m'arrive très souvent le soir de regarder les photos que j'ai faites dans la journée, mais voilà, uniquement pour comprendre ce qui m'est arrivé le jour même.
Mais le fait que vous fassiez le lien avec l'absence de photos de vous, petite, enfant, pouvant témoigner, presque pouvant prouver que vous avez été un bébé, puis une enfant, puis une enfant qui grandit, est-ce que ça vous le faites en écrivant ou c'est quelque chose qui était déjà à l'œuvre dans votre réflexion ?
C'était déjà présent et c'est devenu plus présent encore quand j'ai moi-même eu des enfants. On comprend assez vite hein, quand on a des enfants que en fait ça passe très vite. Voilà, c'est classique de raconter ça et que en réalité on ne se souvient plus. On pense se souvenir. Quand on a le petit bébé, on se dit je me souviendrai de ma grossesse. Quand on a l'enfant qui babille, qui commence à parler, on se dit je me souviendrai du nourrisson. Mais en fait c'est pas vrai. Donc j'ai eu ce besoin accru de traces, étant donné que moi j'en avais pas de ma propre enfance. C'était devenu quasi viscéral, en fait.
Il y a quelque chose du rapport au corps, très fort, je le disais, vous apparaissez presque dans des dimensions animales à plein de moments du texte. Enragée, désespérée, amoureuse, désirante, aimante, maman. Et il y a comme cette idée-là que l'absence de première photographie de votre vie, Pauline Delabroix-Allard, fait comme vaciller l'idée que oui, vous en avez vraiment un de corps. Que oui, c'est vrai, vous existez vraiment sur Terre. Oui, cette question qui va se reposer de manière extraordinairement tragique quand vous tenez ce petit bébé et de se demander comment, qui va me croire ? Qui va croire qu'il avait vraiment un corps si je ne fais pas cette photographie interdite ?
Oui, c'est assez juste. Alors, je peux quand même m'appuyer, moi, sur des petites traces tangibles que j'ai existé, que j'ai été un enfant, même si, voilà, encore une fois, j'aimais pas être un enfant, ça y a peut-être un lien aussi. mais c'est vrai que, en tout cas, cette question qui s'est posée à moi dans la chambre de la maternité, est-ce qu'on peut photographier, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut photographier un corps mort et un corps de bébé mort, la réponse m'est très vite apparue. Je me suis dit, si je ne le fais pas, on ne me croira pas.
Oui, vous dites d'emblée, même parlant de votre rapport à la vie, avant même la mort de Jacob, que photographier, c'est dire un « je le jure ». « Je le jure, ça a eu lieu ».
C'est très enfantin, ça, pour le coup.
Ouais. Je sais pas, peut-être qu'on a tous besoin d'avoir un « je le jure, ça a eu lieu » dans la poche. On écoute Roland Barthes, une archive de 1977 au micro de Jean-Marie Benoît. Il parle du lien entre la mort et la photographie.
Je dirais que la fascination de la photographie, c'est toujours pour moi la fascination du « ça a été ». Cela a été. Donc finalement, ce qui me fascine dans la photo, et vraiment les photographies me fascinent, c'est quelque chose où la mort a son mot à dire, certainement. Et ce qu'il y a de fascinant dans la photographie, c'est que justement c'est un art mécanique et que la mécanicité de cet art atteste tout au moins fictivement la vérité, la réalité de ce qui s'est produit. Donc le « ça a été » est absolument incontestable dans la photographie. Et c'est ça qui rend la fascination d'une photographie bouleversante. Je ne crois pas du tout qu'une photographie soit faite, même dans la conscience public, des gens qui font, des amateurs qui font de la photographie, le problème n'est pas du tout de représenter quelque chose, n'est-ce pas ? C'est de se rappeler, c'est de se remémorer en tant que le souvenir est un jeu fondamental avec le mourir.
C'est la voix de Roland Barthes dans Snarchie de 1977, et je répète cette phrase de la fin, le souvenir est un jeu fondamental avec le mourir. Vous avez dit tout à l'heure, Pauline Delabroix-Allard, qui faisait partie de vos compagnons de route, dans un moment d'écriture où vous vous êtes sentie particulièrement seule. Pourquoi est-ce que la pensée de Barthes, c'était le secours d'une compagnie ? Intellectuel, j'entends.
Ben justement, dans La Chambre claire, il explique très bien ce que ça a été qui développe là la radio. En fait, moi, ça m'a secouru dans le sens où ça m'a expliqué ce geste que j'ai eu et pour lequel, et j'espère que le livre retranscrit bien ça, j'ai eu honte. J'ai eu honte de faire ça. J'ai eu peur de moi quand j'ai fait ça. Et en fait, de le lire, je me suis dit, bon, ça m'a permis de comprendre mon propre geste et puis de comprendre aussi mon geste d'écriture parce que la photo permet de dire ça a été, c'est une preuve, la preuve est dans ce cas en particulier violente et surtout elle est intransigeante, enfin elle cadre, elle fixe. Alors que l'écriture permet de contourner, de revenir, de faire des allers-retours. Voilà, exactement. Et ça m'a permis de me dire ces deux choses différentes, elles peuvent coexister. Ça peut être deux manières aussi d'approcher cette scène, ce moment.
Est-ce que la photographie, elle est d'autant plus immontrable que ce qu'elle tente ou ce qu'elle essaye ou ce que vous essayez de fixer ou de prouver avec elle est impensable. C'est-à-dire que oui, c'est la mort d'un enfant, c'est la mort d'un bébé, mais en plus, c'est une certaine manière. C'est ce que vous décrivez, parce que vous êtes extraordinairement précise dans le parcours que vous avez suivi avec votre compagne et jusqu'à l'interruption médicale de grossesse et tous ces gestes qui, en avançant et en se faisant, les fameux gestes avec le G majuscule, sont toujours presque le contraire d'eux-mêmes. Toujours, ils avancent en étant les négatifs d'eux-mêmes. C'est une piqûre dans un cordon ombilical pour donner la mort, alors que le cordon ombilical, c'est précisément pour donner la vie. C'est comme si tout avançait tout le temps avec du contraire. Et que du coup, ça fait péter une durite littéralement. C'est pas possible de le penser, quoi.
Je crois, en fait, je me suis beaucoup interrogée sur cette photo. Des photos dans la chambre de maternité, j'en ai pris plusieurs. Il y en a certaines qu'on a pu montrer à des proches. Il y a une photo de la petite main du bébé qui, par exemple, a permis à ma femme de faire un faire-part public. Donc, il y a des images qui ont été montrables. Celle dont je parle, qui est l'autoportrait des amoureuses au petit cadavre, j'ai pensé dans un premier temps qu'elle était immontrable parce qu'il y avait la présence d'un enfant mort. Et en fait, l'écriture du livre m'a permis de déplier cette pensée, de l'ouvrir et de me rendre compte qu'en réalité, si cette photo-là précisément était immontrable, c'est parce qu'elle met en scène des choses que qui débordent des cadres sociétaux. C'est-à-dire qu'elle met sur la même photo l'amour et la mort, l'homosexualité et la famille, la maternité et la perte. Et en fait, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables encore, qui sont encore des zones de silence. Et je crois que c'est ça qui est immontrable sur la photo, c'est que c'est l'amour qu'il existe et qui résiste à tout ça. C'est le lien. En fait, ce qui est immontrable sur cette photo, c'est le lien qui persiste et qui est presque insolent. C'est une espèce d'amour insolent.
D'ailleurs, vous dites que vous écrivez pour ça. Vous dites que vous écrivez pour être insolente, pour être indocile, pour ne pas respecter les règles. Il y a une litanie de questions qui revient très souvent. Qui m'a appris à faire ça? Qui m'a appris à me taire? Qui m'a appris à pas renverser cette table quand on m'annonce cette nouvelle? Qui m'a appris à pas me barrer en courant avec mon cadavre de bébé dans les couloirs de la maternité? Qui m'a appris à pas hurler? Qui m'a appris à être douce? Vous interrogez beaucoup. En même temps que vous avancez, vous vous demandez qu'est-ce qui me tient?
Je crois que l'écriture de ce livre, ça m'a fait prendre conscience, même si je le savais déjà, à quel point le corps des femmes, notamment, est domestiqué par la société, qu'on est bridé et qu'on nous demande depuis l'enfance de pas faire trop de bruit, de nous tenir bien, d'être sage, ce mot de sage. Mmh. Et j'ai cru longtemps que la sagesse, par exemple, c'était une forme d'élégance, etc. Et quand j'ai vécu tout ça, alors je suis restée sage hein, dans la vie, mais le livre, lui, m'a permis de faire ces choses qui m'ont traversée, d'enfoncer puissamment l'aiguille qui allait tuer mon bébé dans l'œil du médecin. C'était le pouvoir fou de la littérature que de me le permettre, d'avoir cette indocilité-là, de refuser le silence, de refuser la demande implicite qui est faite par l'institution quand même, de repartir chez soi et de ne pas en parler parce que ça fait peur aux autres qui veulent devenir parents, que c'est des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, que la vie doit continuer, qu'après tout, il y a plus grave, etc., etc.
Vous réussissez à montrer une autre image à la place de cette image, et c'est assez intéressant parce que ça convoque toute l'histoire de l'art. On vous retrouve au musée. Je ne sais pas, parfois j'oublie moi aussi certains jours. Et puis l'autoportrait revient me chercher, me tire en arrière. L'image est rappel, l'image est reproche. Jacob est là, image latente, dans les plis du temps, dans les interstices des jours. Il me faut fermer les yeux pour le voir, image fantôme. Je me suis précipitée à la boutique du musée, à la fin de la visite, pour voir s'il l'avait en carte postale. Et oui, il l'avait. Je l'ai acheté pour 1,50€ avec l'enveloppe dont je ne me servirai pas. Je suis rentrée chez moi, quelques jours plus tard, et je l'ai accroché tout de suite au-dessus de mon bureau, avant même d'avoir enlevé mon manteau. C'est que cette image, je peux la regarder, autant que je veux. C'est le nouveau-né de Georges de la Tour. Quand je l'ai vu, au détour d'une salle au Musée des Beaux-Arts de Rennes, je suis tombée en arrêt. J'ai dû m'asseoir sur le banc qui lui fait face. Deux femmes entourent un bébé. Il fait nuit ou presque. Une nuit jaune, une nuit d'huile. On ne sait pas s'il fait chaud ou froid dans la pièce. Peut-être est-ce une chambre, peut-être une étable. Une femme tient un nourrisson contre elle. Elle a les paupières baissées car elle ne le quitte pas des yeux. Elle porte une robe rouge turque. C'est sa mère, c'est sûr. Elle le tient comme une corbeille de fruits, comme une offrande. Il est emmailloté dans un linge blanc, ou crème plutôt. On ne voit que son visage dépassé du linge. Son front, le bout de son adorable nez rond, ses lèvres entrouvertes, son petit menton, rien d'autre. Il est là et il dort. Un second visage est tourné vers lui, celui d'une deuxième femme, à gauche du tableau. Son regard scrute le petit visage. Je m'imagine que c'est son autre mère. Il ne peut pas en être autrement. D'une main, elle protège la flamme d'une bougie. Il n'y a rien d'autre autour d'eux, pas de mur, pas d'arrière-plan, pas de décor. Il n'y a que ces trois-là et la flamme d'une chandelle qui suffit à éclairer le monde. Qu'est-ce qu'elle joue comme rôle, cette image, Pauline Delabroix-Allard, dans votre texte ? Cette peinture de Georges de la Tour ?
Elle joue le rôle consolateur. Elle est venue me consoler. Elle est venue, et en plus, ça a été une vraie rencontre. Je suis tombée nez à nez, avec ce petit nez, justement, dans le musée des Beaux-Arts de Rennes, où elle est normalement, c'est là qu'elle réside. Et il se trouve qu'actuellement, elle est à Paris, mais c'est le hasard.
En ce moment, quand vous sortez votre livre?
Oui, elle est exposée en ce moment dans une exposition de la Tour. Je suis pas encore allée retourner, j'ai pas osé, voilà, je suis timide. Je suis pas retournée la voir, mais j'ai très envie. Et donc c'est une toile qui m'a consolée parce que c'est j'y ai vu une représentation, j'y ai vu la représentation dont j'avais besoin. C'est une scène splendide, très religieuse, mais il n'y a aucun signe religieux. Donc on peut bien imaginer ce qu'on veut. Il s'agit probablement de la naissance de Jésus, mais après tout, c'est pas indiqué. Et on voit surtout deux femmes. Il n'y a aucun homme sur ce tableau. Et le bébé, voilà, le bébé, c'est ce que je cherche à approcher avec l'écriture. C'est un bébé, rien ne ressemble plus à un bébé vivant qu'un bébé mort, en fait.
Parce qu'il y a l'idée de ce sommeil incertain sur ce tableau, comme sur la photographie, quand vous la passez en noir et blanc, cette fameuse photographie interdite, Pauline de Labroix-Allard, où Jacob pourrait dormir alors qu'il est mort. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de l'histoire de l'art qui traverse votre livre, et vous citez Georges Duberman. Lorsque vous comprenez le processus d'incinération des bébés au Père Lachaise, vous êtes ramené à un autre point qui n'est pas l'histoire de l'art, mais qui est l'histoire tout court. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous soupçonniez au moment où vous mettez à écrire sur l'image impossible? Est-ce que vous dites que vous allez aussi vous approcher d'une histoire que vous transportez, que nous transportons tous?
C'était dans mon ventre. Je le savais pas, mais quand on a traversé tout ça, quand on a vécu tout ça, quand j'ai découvert tout ça, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui sont occultées.
Bah, précisons-le peut-être dans ce cas.
Voilà, donc il se trouve que oui, alors en deux mots, les bébés morts, en tout cas à Paris, mais je pense que c'est partout pareil, sont, s'ils ne sont pas, si les obsèques ne sont pas organisées par la famille, sont récupérés, je crois une fois par semaine, par ce qu'on appelle un convoi qui les emmène à l'incinérateur le plus proche, où ils sont incinérés tous ensemble.
Et là, tous les mots clignotent.
Voilà. Et donc les mots utilisés par les institutions, encore une fois, sont très brutaux. Moi, le langage m'a beaucoup brutalisée, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour reprendre le pouvoir sur le langage qui n'avait eu de cesse de me brutaliser entre les acronymes avant le jour de la mort, et puis ensuite justement tous ces mots associés au post-mortem, donc le convoi, l'incinération collective, enfin voilà. Je sentais bien quand c'était en train de se produire que venait se jouer là quelque chose pour moi qui était plus grand, mais j'étais sidérée moi, donc j'avais pas le temps d'y penser. Et c'est en ça aussi que c'était important pour moi d'avoir des lectures et que les livres m'ont été utiles, même si évidemment par exemple Didier Huberman parle de photos prises dans les camps de la mort, et que voilà, mais il rappelle la responsabilité de quand même regarder ces photos, de quand même y accorder son regard et accorder son temps.
Il y a quelque chose dans votre livre, en effet, Pauline de Labroix-Allard, qui part d'une dimension extraordinairement intime, que ce soit la vôtre, celle de votre femme qui porte le bébé, celle du bébé, celle de vos autres enfants, et puis qui, très régulièrement, comme ça, dans une sorte de mouvement circulaire du texte, va avoir beaucoup plus large, ou bien du côté de l'histoire, ou bien du côté de la société. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se débrouille avec les bébés et les enfants morts aujourd'hui au XXIe siècle en France, par exemple? Vous regardez ça. Bon, c'est un constat peu reluisant. Quels mots on a? Comment on renvoie des femmes à la sortie de la maternité, les bras vides, sans accompagnement, avec pas beaucoup de secours? Vous l'écrivez, puis il y a quelque chose qui... Ensuite, vous revenez à vous, mais comme si vous nous convoquiez aussi. En tant que société, je veux dire.
Mais le point commun de mes livres, je crois que c'est ce qu'on appelle la littérature de l'intime. Mais j'ai jamais vu ça comme un repli sur soi ou comme la manière de raconter sa vie. Ou j'ai jamais estimé que la littérature était une forme de journal intime. Pour moi, la littérature de l'intime, c'est justement ce moment où le commun peut venir, l'expérience personnelle peut venir toucher au commun. C'est-à-dire que c'est aussi pour moi, je crois, dans mes trois livres, une littérature qui parle du corps et de ce que la vie fait au corps. au corps, au pluriel, mm-hmm. au corps des femmes. J'ai aimé écrire le corps amoureux, désirant, glorieux dans Ça raconte Sarah, le corps très incertain dans mon deuxième roman. Et puis là, c'était ce corps où les deux choses se touchent, la vie et la mort, dans le même moment. C'était pour moi, parce que en fait, les deuils, on les traverse tous et toutes, mais on les traverse seuls. Moi j'ai l'impression que la littérature doit être le lieu où ça doit permettre de circuler. J'ai voulu quand même un peu ouvrir la parole, qu'on puisse parler de ça tout simplement, puisque en fait nous sommes légion, les parents endeuillés. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés, beaucoup de familles qui sont atteintes. Donc voilà, c'était une manière pour moi aussi de faire groupe, de faire collectif autour d'une zone comme ça de silence.
On va écouter Léa et sa voix, auditrice du Book Club. Elle a lu votre livre, elle vous adresse deux questions. Bonjour le Book Club, bonjour Pauline Delabroix-Allard. Ce qui m'a frappée à ma lecture, c'est l'omniprésence de vos réflexions sur l'écriture. Et évidemment, je pense à tous ces auteurs et autrices qui ont émis l'idée selon laquelle écrire, c'était un peu trahir. Et vu que vous vous attelez à finalement donner à voir ce qui est impossible à voir, à accepter de voir. Où est-ce que vous vous situiez par rapport à ça ? Est-ce que vous avez eu l'impression de trahir la réalité, puisqu'il est beaucoup question de vérité aussi dans votre ouvrage ? Et surtout, est-ce que cette écriture a été salvatrice pour vous ? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci à vous Léa pour ces deux questions. La dimension de trahison dans l'écriture, Pauline Delabroix-Allard. Celle peut-être salvatrice de cette même écriture.
C'est des grandes questions qui m'occupent. En tout cas, celle de la trahison, elle me traverse très souvent. Et voilà, depuis le début, en fait,
de l'écriture,
oui, oui. Mais je trouve, si je dois comparer les deux pratiques, que la photo bizarrement trahit plus. On pourrait croire que la photo est une preuve, que la photo atteste. Mais ce qui m'intéresse moi dans l'écriture, c'est que la photo pour moi forme et l'écriture transforme, si j'arrive à le dire comme ça. C'est-à-dire que, à mon sens, comme l'écriture est invention, comme l'écriture est geste créateur et créatif, eh bien, du coup, il ne trahit pas puisqu'il il crée. Et voilà. Alors que la photographie, pardon, sous son air de je fais juste montrer ce que je vois, elle peut plus trahir, à mon sens. Par exemple, une photo de famille posée où tout le monde sourit cache en fait de grands dysfonctionnements. Ça, on le sait tous. Ça n'est pas qu'un ça a été. C'est la théorie de Barthes, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses autour de la photo. Et puis pour ce qui est de la deuxième question de Léa, qui était
la dimension salvatrice.
La dimension salvatrice. Oui, oui. Je m'oppose un peu à ça. Moi, je dirais jamais que l'écriture me guérit, qu'elle est guérison, qu'elle me répare, comme on réparerait un jouet cassé. Tout ça, ça, pour moi, ça n'existe pas. Je suis contente d'arriver parfois à mettre au monde des récits qui peuvent rejoindre ceux des autres. C'est ça qui me fait du bien. Alors ça ne me répare pas, mais ça me contente. C'est vraiment c'est ça. Je suis contente quand j'ai le sentiment que raconter la vie qui m'a traversée, les expériences qui m'ont foudroyée, peuvent rejoindre quelque chose, peuvent toucher quelque chose chez l'autre.
Peut-être ça va dans le sens de ce que disait Philippe Forest en 2014 sur France Inter. On l'écoute.
Moi, je suis assez hostile à l'idée de travail du deuil, parce que dans le travail du deuil tel qu'on le présente parfois, il y a cette idée qu'il faut finalement surmonter l'épreuve, passer au-delà, alors qu'au contraire, moi je crois qu'il y a un devoir de fidélité, et que ce devoir de fidélité, pour moi, il a pris la forme de la littérature, mais il peut prendre bien sûr de très nombreuses autres formes. Je me suis opposé dans tous mes livres, et dès le premier aussi, à l'idée qui court du côté des écrivains, des poètes, etc., à savoir que la littérature permettrait de triompher de la mort, de donner une sorte d'éternité aux disparus. Je crois que la littérature, elle doit témoigner justement du caractère irrémédiablement tragique de cette expérience-là. Mais c'est aussi une manière de continuer une sorte de dialogue imaginaire avec l'enfant disparu. Disons que vous êtes tout à coup mis en face d'une expérience qui vous confronte à, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, l'impossible, l'absurde, l'incompréhensible. Donc il ne s'agit surtout pas de donner du sens à ce qui n'en a pas. Ça prend différentes formes dans l'expérience humaine. Donc moi, je ne veux pas donner l'impression que je privilégie cette expérience de la mort de l'enfant. Elle est radicale, et donc c'est pour ça qu'elle suscite tant de réticences, quelque chose qu'on veut oublier. C'est pour ça que la mort de l'enfant est tabou.
C'est la voix de Philippe Forest en 2014 sur France Inter. Il y a quelque chose, une tension quand on referme votre livre, Pauline Delabroix-Allard. C'est l'idée que, en effet, la mort est un tragique indépassable. Et en même temps, l'écriture est une tentative de trace. Philippe Forest, il se situe un petit peu au milieu. Vous vous diriez que vous êtes où après l'écriture de l'immontrable ?
Je rejoins complètement ce qu'il a dit. C'était même troublant. J'étais vraiment d'accord avec ce qu'il a dit. Après l'écriture de ce livre, j'espère que j'ai réussi à éveiller la responsabilité de mes lecteurs. C'est ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu qu'ils se sentent responsables de la photographie que je leur ai confiée en écrivant ce livre. Qu'elle ne soit plus la mienne, qu'elle ne soit plus enfermée dans mon téléphone. Ils ne la verront jamais, ils, elles. Mais
on en est porteurs et porteuses,
voilà,
quoi.
Exactement.
Le book club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque mardi arrive le moment de s'intéresser à la littérature jeunesse, c'est avec vous qu'on le fait, Raphaël Bott. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Vous avez choisi un album aujourd'hui aux allures d'un grand cahier souple. Et dès la couverture, il semble que les personnages aient envie de se carapater.
C'est exactement cela, et ce n'est pas pour rien que le titre n'est autre que l'évasion. Il est écrit en rouge, rouge vif et légèrement rosé. Les autres couleurs de ce livre seront le blanc et le noir. J'ai oublié de vous dire que les lettres de ce mot évasion sont un peu chahutées, un peu de travers. Trois tout petits personnages déboulent, l'un se balance au bout d'une corde, et deux autres semblent tirer comme ils peuvent la bordure de la couverture. Page suivante, ces bons hommes filiformes et agiles bondissent, atterrissent en bas de la page et tirent eux aussi sur la bordure de papier comme on tirerait sur un rideau pour passer de l'autre côté. Ils veulent se faire la malle de cette page, sortir. Au fil des pages, il y a quelque chose de trépidant et d'aventureux à suivre cette petite colonie persévérante. Il y a aussi quelque chose d'assez jouissif à voir ces bons hommes qui peinent et qui lâchent jamais. Ils s'entraident, ils cherchent des astuces, des outils. Là, il va y avoir une corde avec un grappin, puis une échelle, une sorte de perche, et ça marche pas. Tout le monde se rétame.
Et toutes ces aventures, chutes, rechutes et rechutes sont racontées sans aucun mot.
Bah oui, l'évasion a le pouvoir des livres sans texte, et un enfant aura plaisir à en chercher tous les détails et les subtilités. Et puis, bah ici, tout est mouvement. Il y a quelque chose qui rappelle l'ambiance du cirque ou bien même celle du cinéma muet.
Le papier, lui aussi, il est utilisé et la narration ne se repose pas entièrement sur l'illustration. Il joue un rôle.
Exactement. Il y a un jeu même d'échelle entre la taille des personnages et l'immensité de la page. Il y a des découpe, un rabat à soulever, des coins de pages qui sont collés. Vincent Brocker, donc c'est le nom de l'auteur, est un artiste qui dessine. Il tourne aussi des films d'animation, il fait de la vidéo, il réalise des fresques sur les murs des villes. Et on sent toutes ses pratiques dans son album. Il investit complètement l'objet de papier. À sa manière, il parle aussi de notre rapport aux livres, aux histoires, aux personnages. Comme les personnages ne parviennent pas à sortir, c'est nous, lecteurs, finalement, qui leur donnons un coup de main en tournant la page. Et en fait, ça dit aussi quelque chose de la lecture. C'est les raisons pour lesquelles on continue de lire. Et c'est d'abord un album ludique. C'est immédiat, c'est facétieux. C'est pas une fable lourdingue sur le plaisir de lire. Il se parcourt, il se vit, et des enfants de 4 ou 5 ans peuvent complètement rentrer dans ce jeu avec ses personnages, les chercher et repérer les détails.
Et l'évasion est donc un livre sans texte, publié par les éditions des Grandes Personnes. Peut-être inspiré par son titre, vous vouliez aussi nous parler d'un événement culturel assez singulier, Raphaël.
Oui, alors, loin de moi l'idée de pousser les personnes personnes détenues à l'évasion, mais ma foi, les livres permettent aussi de s'évader en toute légalité. Et demain, il se trouve qu'une exposition ouvrira ses portes, et pourtant, pour vous et pour moi, il ne sera pas possible d'aller la visiter. Elle est organisée dans le centre pénitentiaire du Sud francilien, à Réau. Cette maison d'arrêt est la seule en France à disposer d'un espace dédié aux expositions. C'est un peu comme une galerie. Et la petite bibliothèque Ronde de Clamart, qui est une institution dans l'histoire de la médiation de littérature jeunesse auprès du grand public, a eu l'idée d'en organiser une, donc une exposition. 11 hommes et femmes détenus, entre 19 et 65 ans, sont devenus 11 commissaires d'exposition. Pendant plusieurs mois, ils se sont retrouvés tous les mardis après-midi pour travailler, pour réfléchir. Ils ont rencontré une éditrice, une critique, une conservatrice, des auteurs. Ils ont trouvé un thème, sélectionné ce qu'ils souhaitaient mettre sur les cimaises et dans les vitrines. Et leur exposition sur la littérature jeunesse s'intitule « Manger et être mangé ». Des originaux, des éditions rares et belles ont été prêtées. On voit par exemple des planches d'une soupe aux cailloux d'Anaïs Vaugelade, de Blaise et le château d'anniversaire de Ponty, ou les illustrations d'Arthur Rackham pour Alice au Pays des Merveilles.
Mais qui dit expo dit visiteur. Qu'est-ce qui va la visiter, cette expo?
Pendant 3 mois, ce sera donc des personnes détenues, ce sera le personnel, des magistrats, des avocats qui pourront l'arpenter. L'idée, c'est de partager l'ambition de ce projet et à quel point la littérature jeunesse a sa place dans un tel lieu, au même titre que tous les autres livres. Et bien sûr, elle participe à maintenir le lien entre les personnes détenues, parents et leurs enfants. Mais c'est aussi une littérature qui parle autant aux lecteurs qu'aux non-lecteurs.
L'exposition durera jusqu'à la fin du mois d'avril pour les personnes concernées. Et ensuite, des temps de partage seront organisés autour de cette expérience, accessible au grand public, notamment à la médiathèque Françoise Sagan à Paris. On remettra toutes les références de cette chronique sur la page du Book Club. On rappelle peut-être le titre et l'auteur du premier livre?
Oui, c'est L'évasion de Vincent Brocker et c'est aux éditions des Grandes Personnes.
Lecture jeunesse, franceculture.fr. Merci beaucoup Raphaël Bott. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on cherche de la musique dans les livres. On joue avec nos auditeurs et auditrices et parfois on cherche tout seul et on n'a pas trouvé de musique dans votre livre, Pauline Delabroix-Allard. L'Immontrable est un livre silencieux. Est-ce que vous y teniez à cette dimension silencieuse?
Oui, j'y tenais, tout comme je tenais à ce qu'il n'y ait pas non plus de prénom. J'avais envie qu'on n'entende que le nom de Jacob et que le cri silencieux de ses mamans endeuillées. Mais il y a une, il y a ça. Enfin, pour le coup, j'ai réussi à écouter de la musique pendant que j'écrivais. Et il y a cette chanson, par exemple, d'Émilie Loiseau qui s'appelle Sept enfants et qui est très belle. Et voilà, on aurait pu la citer.
Mais on l'a citée du coup.
Ouais.
On va se quitter avec un extrait d'un autre livre. Vous l'avez mentionné rapidement tout à l'heure. Ça raconte Sarah, paru aux éditions de Minuit en 2018. Et il y en a plein de musique là-dedans. Elle n'a pas d'enfant. Elle ne sait pas si elle veut en avoir. Elle lit extrêmement lentement. Un roman peut rester des semaines sur sa table de chevet. Elle porte des lunettes pour aller au cinéma, pour conduire, parfois pour travailler sur ses partitions. Elle a 2 frères, plus jeunes qu'elle. Elle a un père qui lui a transmis le goût des cérémonies et une mère qui lui a transmis le goût des fêtes. Elle aime énormément sa famille. Elle a grandi dans le 16e arrondissement, pas très loin de la Seine. Elle vote à gauche quand elle vote. J'écoute ce printemps-là un seul morceau qui ne soit pas du quatuor à cordes. India Song, que chante Jeanne Moreau. Les quelques notes du début, avant sa voix, me font pleurer. Quand elle chante, je chante avec elle. La voix éraillée d'un chagrin qui semble venir de très loin, que je ne m'explique pas. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle. Et toi qui me dis tout.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles. Et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle. qui te chantait.
Merci beaucoup, Pauline Delabroix-Allard, d'avoir été avec nous pour parler de L'Immontrable, paru dans la collection Camera Oscura, dirigée par Caroline Brouet aux éditions Julliard. Merci infiniment.
Merci.
Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Moulet à la réalisation, Vivien... Quoi, je me suis encore trompée ? Putain. Julien Moulet à la réalisation, Vivien Demeyer. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club. Vous pouvez réécouter l'émission via l'application Radio France et continuer la conversation avec Alexandra Alaé-Bégovitch sur le compte Instagram de l'émission.